Et bonjour à chacun. Par ta grâce, nous voici, nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. C'est toujours des phrases spéciales. Hein. D'être purifié par le sang d'un agneau, c'est quand même à comprendre. Et nous savons que nous avons ce pardon parce que Christ est mort, qu'il a donné sa vie. Hein, le sang, dans la Bible, ce n'est pas le liquide, pas la matière, mais c'est vraiment cette vie qui est donnée, qui est prise. Et puis le sang de l'agneau offert en sacrifice. Alors qu'est-ce que ça change pour nous, cette mort? Qu'est-ce que ça change, cette résurrection de Jésus? Dans cette période de reprise d'activité plus habituelle, la rentrée qui s'approche ou qui est déjà là, l'été qui s'éloigne, quel est l'avantage d'être chrétien puisque nous subissons les mêmes difficultés, les mêmes contraintes? Puisque l'aspect pénible du travail touche toute personne, qu'elle soit chrétienne ou non. Le vieillissement du corps touche toute personne. Chacun est fragile. Quel est l'avantage d'être chrétien? Qu'est-ce que ça change? Et nous continuons l'épître à Tite, lettre écrite par Paul à l'un de ses proches collaborateurs laissés en Crète pour organiser les églises de cette île. Et nous avons, avant l'été, pratiquement parcouru toute cette épître. Nous en sommes au chapitre 3, le dernier chapitre. Et je vais lire les 8 premiers versets. Avant l'été, nous avions lu les 2 premiers versets de Tite 3, oui, Tite chapitre 3. Et nous avons vu les 2 premiers versets donc avant l'été, mais on va les reprendre là pour bien comprendre donc toute la dynamique de la pensée de Paul, c'est-à-dire ce que Dieu veut nous communiquer. Donc, la lettre à Tite, et je vais lire dans la version Sommer. Rappel à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, et qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Car il fut un temps où nous-mêmes, nous vivions en insensé, dans la révolte contre Dieu, égarés, esclaves de toutes sortes de passions et de plaisirs. Nos jours s'écoulaient dans la méchanceté et dans l'envie. Nous étions haïssables et nous nous haïssions les uns les autres. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclarés justes par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. Cette parole est certaine, je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Rappelle à tous qu'ils ne dénigrent personne. Car il fut un temps où nous-mêmes nous vivions en insensé. Paul nous rappelle que nous devons nous souvenir d'où nous venons et qui nous a tirés de cet état. Nous venons de le chanter, tout est grâce, tout est cadeau de la part de Dieu, tout vient de lui. Nous n'avons aucune raison de nous sentir supérieurs à quiconque. Sans Dieu, nous serions tous au même point. Il est nécessaire de se reconnaître malade pour accepter de se soigner. Il est nécessaire de réaliser l'état de tout être humain sans Dieu. Dans tout ce que Paul dénonce, notamment au verset 3, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui sont égarés, cette révolte contre Dieu. Il ne suffit pas de faire une vie sans vagues, une vie bien rangée pour plaire à Dieu. Toute personne qui ne reconnaît pas d'où vient la vie et d'où viennent tous les bienfaits dont elle bénéficie est en révolte contre Dieu. Parce qu'elle ne reconnaît pas qui est la source de la vie et qui est celui qui la comble de bienfaits. L'égarement est donc ce refus de Dieu et notre société, depuis les philosophes des Lumières, pense déterminer ce qui est bon et ce qui est mauvais uniquement par elle-même. L'homme se suffit à lui-même, il sait déterminer ce qui est bon, ce qui est mauvais d'après ses propres normes. Je suis perdu, mais je refuse d'utiliser ma boussole ou je refuse d'utiliser mon GPS. Il faut moderniser les images. Je suis totalement égaré, je suis incapable de m'orienter, je suis dans une épaisse forêt, au cours d'une nuit nuageuse, donc si jamais il y a une éclaircie, j'ai même pas une étoile pour moi, mais je refuse de consulter ma boussole, mon GPS. Je continue à croire que je vais m'en sortir tout seul. On pense que des êtres humains imparfaits mis ensemble peuvent déterminer ce qui est juste et bon sans Dieu. Paul parle aussi, dans un deuxième temps, d'esclavage. Passion, plaisir. On peut citer la sexualité, on peut citer l'alcool, le plaisir en général, le jeu, le travail, l'image de soi, esclave de l'image de soi, la recherche désespérée de donner un sens à sa vie, le fait de croire que ma discipline de vie ou mes principes vont faire de ma personne quelqu'un de bien, l'esclavage. Toute personne qui commet le péché est esclave du péché, rappelé Jésus, Jean 8:34. Et puis il parle aussi de personnes haïssables, et nous nous haïssions les uns les autres, des relations humaines qui sont perverties. Il ne peut pas sortir du bon d'un cœur touché par le mal. Notre société est dure, injuste, individualiste, et c'est le résultat de cette corruption du cœur humain. Quand on parle parfois, en termes théologiques, de dépravation totale du cœur humain. Alors, il faut bien se comprendre. Cela ne veut pas dire que l'être humain fait toujours tout le mal, le plus de mal possible, tout le mal qu'il pourrait faire. Heureusement qu'en chaque être humain, il reste encore de l'image de Dieu, même si c'est une image qui est tordue, qui est cassée à cause du péché. Et puis, on a une autre société qui a été aussi façonnée par les lois, par les principes issus de la Bible. Non, quand on parle de dépravation totale, c'est-à-dire que tout l'être humain est touché par le mal, par le péché, c'est-à-dire son intelligence, sa volonté, ses sentiments sont contaminés. Tout est contaminé. Alors bien sûr, les êtres humains ne sont pas tous touchés de la même manière, il y a des degrés différents, mais tous sont touchés, tous sont atteints. Alors pourquoi ce rappel ce matin? Trois raisons. La première raison, c'est que voilà la manière dont Dieu nous voit. Il ne choisit pas d'aimer des personnes aimables. Il ne nous aime pas parce que quand même, il a vu toutes les qualités que nous avions. Dieu a décidé d'aimer des personnes qui n'ont rien d'aimable. Et il le fait en toute connaissance de cause. Oh Seigneur, tu as vu mes prières, tu as vu que j'ai jeûné, que j'ai lu ma Bible, j'ai agi envers les plus pauvres. Maintenant, j'attends que tu me guérisses, que tu m'exauces. Aucun sens. Aucun sens. On ne peut rien faire valoir devant Dieu. Deuxième raison, l'échec humain devant la justice de Dieu. Nous ne sommes pas capables de nous améliorer par nous-mêmes. Nous ne pouvons pas atteindre ce que Dieu attend de nous. Et nous avons besoin de son aide pour une vie transformée. Et lorsque nous partageons notre foi à des non-croyants, il ne s'agit pas de parler de comportement. Or, bien sûr, je peux citer la Bible. Soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Mais ce n'est pas à coup de commandements ou de versets bibliques, de morale, que des personnes peuvent changer. Premièrement, ce que je dois annoncer, c'est l'Évangile. C'est-à-dire, nous sommes incapables de nous sauver, incapables de nous améliorer. Jésus est venu subir la juste condamnation à la place de pécheurs. Il a pris sur lui le châtiment et il donne sa justice à tous ceux qui se confient en lui faisant totalement confiance. Voilà l'Évangile. Et voilà cette attitude de foi qui conduit à échapper à la justice de Dieu et à recevoir les forces pour mener une vie transformée. Ce n'est pas ma propre justice qui sauve. C'est Christ, mort sur la croix, reconnu comme maître et sauveur. Troisième raison, c'est que les chrétiens sont tout autant touchés et pervertis que les autres. Ils ne sont pas meilleurs par nature. Je vais prendre un exemple, je vais dire au hasard, mais surtout pas au hasard. L'apôtre Paul, qui menait une vie extrêmement droite en tant que pharisien, qui cherchait à plaire à Dieu par la loi, qui cherchait de toutes ses forces à suivre les commandements de l'Ancien Testament, qui voulait, par sa propre justice, plaire à Dieu. Voilà ce qu'il dit. Nous-mêmes, nous vivions dans la révolte, égarés, esclaves, méchants. L'apôtre Paul avance sa conversion. Le message de l'Évangile nous pousse à l'humilité. Un chrétien orgueilleux est quelqu'un qui oublie d'où il vient. D'ailleurs, chrétien et orgueilleux, ce sont des mots qui ne vont pas ensemble. Un peu comme se hâter avec lenteur, une clarté sombre. Une nuit de janvier claire et chaude à la Brévine. C'est des choses qui ne vont pas ensemble. On sent bien. Chrétien et orgueilleux, ça ne peut pas aller ensemble. Parce que tout vient de Dieu. C'est par la grâce qu'on a chanté. C'est un cadeau. Mais Dieu a agi. Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu compassion de nous, en nous faisant passer par le bain purificateur de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il l'a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre littéraire, on va dire, mais on a presque l'impression de voir le super-héros à l'œuvre. Dans les histoires, le méchant va triompher, il ne reste plus aucun espoir. Et là, on fait appel au super-héros. Et une menace in extremis, il vient délivrer tout le monde. Mais il y a au moins trois différences avec Dieu, même si une partie du scénario est semblable. Trois différences entre ces super-héros, l'histoire de super-héros. La première différence, c'est que l'être humain collabore avec l'ennemi. C'est pas simplement quelque chose qui opprime des personnes qui sont bonnes, mais la Bible, bien sûr, souligne le rôle du diable dans le développement du mal sur la terre, mais elle dit aussi que les êtres humains sont coupables et qu'ils pratiquent eux-mêmes le mal, qu'ils participent en fait à cette oppression. La deuxième différence, c'est que Dieu est venu offrir sa vie. Il a vaincu non pas à cause d'un super pouvoir, mais par sa mort. Enfin, si on veut un super pouvoir, c'est son amour, oui. Mais c'est lui qui est venu s'offrir. Une vie parfaite qui se termine par ce sacrifice à la croix. Le triomphe a coûté très cher. La troisième différence, ce n'est pas que la vie redevienne comme avant. Non. Parfois, dans ces films où il y a un sauveur qui arrive, dans ces histoires, le but c'est que tout redevienne tranquille comme avant. Mais ce n'est pas le but. Le but c'est une vie transformée. Dieu ne vient pas remporter une victoire et puis il s'en va. Il reste pour que ceux qui choisissent de le suivre aient une vie totalement différente de la vie qu'ils menaient avant de le connaître. Dieu a révélé son amour, Dieu a révélé sa bonté. Le projet de Dieu est un projet d'amour parce que Dieu est fondamentalement bon. Dieu n'a pas agi par culpabilité. Oh là là, j'aurais pas dû l'écrire, j'ai raté un truc. Il ne cherche pas à nous aimer pour donner un sens à son existence. Non, 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 non. Il est venu par amour. Il révèle son amour par Jésus-Christ. Il a prouvé cet amour par la mort de Christ à la croix. Dieu fait homme qui vient mourir et donner sa vie pour des pécheurs. Le verset 5 rappelle encore que nos actes ne peuvent même pas nous faire paraître justes. Ce qui, encore une fois, montre à quel point Dieu a compassion et à quel point Dieu nous aime. Dieu est venu donner la vie. Selon ce que vous avez comme traduction, au verset 5, on parle de bain purificateur, de nouvelle naissance, d'un bain de régénération. Il y a cette idée de redonner la vie. Tout à l'heure, j'ai parlé de la nécessité pour le malade de se reconnaître malade, pour accepter le traitement. Mais l'image n'est pas biblique. En fait, la Bible ne dit pas que nous sommes malades sans Dieu. Éphésiens 2.1 dit que nous sommes spirituellement morts et que tout vient de Dieu. Il a envoyé son esprit pour que je vive et que je lui fasse confiance. Le grand projet de Dieu, c'est de nous donner la vie. Un projet qui implique le Dieu trinitaire, le Père qui conçoit le projet, Dieu le Fils qui vient en tant qu'homme mourir à notre place, et le Père et le Fils qui nous envoient le Saint-Esprit pour nous transformer. Le Dieu trinitaire à l'œuvre pour notre salut. Et Dieu ne nous envoie pas une loi à suivre, mais il change notre cœur. L'Ancien Testament donne cette image que Dieu prend nos cœurs de pierre, qui ne sont pas vivants, pour nous donner un cœur de chair. Le cœur de pierre tel que Paul le décrivait au verset 3, insensé dans la révolte, égaré, esclave, etc., pour un cœur de chair, ce cœur capable d'obéir à Dieu, parce qu'il est transformé par Dieu. Et pour nous, ça change tout. Encore une fois, toute cette idée d'orgueil, de supériorité doit disparaître. J'étais comme un nageur qui s'est aventuré trop loin des côtes, incapable de revenir. Je me suis épuisé, sans connaissance. Mon cœur s'est arrêté de battre. Et j'ai été secouru, ranimé, c'est un massage, etc. Déposé sous la terre ferme. Je ne peux pas dire après, ouf, heureusement que j'étais là pour m'en tirer. Et nous voyons le rôle capital du Saint-Esprit. C'est lui qui donne la vie, c'est lui qui nous renouvelle, c'est lui qui nous fait vivre et qui nous transforme. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes capables d'une nouvelle vie. Et le verset 6 précise que cet esprit a été donné avec abondance. Pourquoi est-ce qu'une transformation est possible? Pourquoi est-ce que mon caractère, même le mien, même mon caractère peut être transformé par Dieu? Parce que le Saint-Esprit agit en moi. Le Saint-Esprit est donné à toute personne qui se tourne vers Dieu, Romains 8, 9. Et donc il n'est pas possible d'être un croyant authentique sans avoir le Saint-Esprit. Et je le rappelle parce que certains enseignements disent qu'il faut avoir le parler en langue comme signe de réception du Saint-Esprit ou qu'il faut désirer recevoir une bénédiction supplémentaire. Et la Bible est très claire que le Saint-Esprit est donné à tous avec abondance. Et ce n'est pas une étape différente du pardon et de la nouvelle vie donnée par Dieu, parce qu'on ne pourrait pas avoir une nouvelle vie sans le Saint-Esprit. Ce n'est même pas une réponse à nos prières. Il est donné abondamment à tous ceux qui croient pour une vie transformée. Et cette vie transformée, on parle parfois de marche vers la sainteté, on parle de sanctification, si on aime bien les mots un peu plus longs. En fait, voilà, je vais donner cinq éléments, cinq choses concernant ces progrès spirituels. Premier élément, la perfection est possible. Oui, le chrétien doit devenir parfait. La Bible le dit. Elle précise aussi que ce ne sera le cas qu'après notre mort. Ce qui veut dire que tant que nous restons dans ce corps, nous resterons imparfaits et limités. Nous visons la perfection, nous visons l'excellence, mais ce n'est pas pour tout de suite. Ou alors c'est que notre mort est très très proche. Je le dis parce que dans l'histoire de l'Église, de nombreuses personnes ont fait peser un lourd fardeau sur d'autres en disant que si leur foi était authentique, elles n'allaient plus pécher. Ça, c'est dramatique. Parce que ça va conduire soit je développe une immense hypocrisie envers les autres et envers moi-même, et me prive du bienfait de la repentance. Je suis censé ne plus pécher, c'est quand même terrible. Ou alors ça va me conduire au désespoir. Si je monte un escalier de 4 marches et que je redescends de 3, je progresse. Parfois très vite dans ces montées, et puis parfois j'ai l'impression de redescendre. Mais ne nous décourageons pas dans les moments les plus difficiles. Donc quand on parle de cette marche, de cette purification, de cette marche vers la sainteté, nous visons ce but, mais nous savons que nous ne l'atteindrons pas. Deuxièmement, Dieu nous déclare juste et libre de toute condamnation. Et dans ce sens-là, nous sommes parfaits, saints, irréprochables. Dieu nous voit avec la justice de Christ. C'est pour ça qu'on peut dire avec Luther, simul justus et peccator, pour ceux qui aiment le latin, ou en même temps, saint et pécheur. Je suis saint, oui, Dieu me voit comme saint, mais je pêche encore. Troisième élément, dans notre marche chrétienne, petit à petit, nous allons prendre conscience de l'ampleur de nos fautes, telles que Paul les décrit au verset 3. Lorsque nous nous tournons vers Dieu, nous allons remarquer des fautes grossières, des péchés qui se voient, peut-être des mensonges, des vols, des paroles blessantes. Mais petit à petit, le Saint-Esprit va nous conduire à réexaminer nos motivations, le fond de notre cœur, pour que nous réalisions à quel point nous avons besoin de Dieu. Parfois, c'est à travers l'épreuve et la difficulté que nous en prenons conscience. Et lorsque l'épreuve est là, lorsque la difficulté est là, ce n'est pas un jugement de Dieu. Le chrétien est libre de tout jugement. Il n'y a jamais ce jugement de Dieu. Dieu ne cherche pas à nous faire du mal. Il nous aime, mais il va nous pousser à dépendre de plus en plus de son pardon et de son action en nous. Lorsque j'étais étudiant à l'Institut biblique de Genève, un professeur, David Schutz, on l'a aussi reçu ici, elle disait cette phrase profonde, quand on renverse un pot, ce qui sort, c'est ce qu'il y avait dedans. Quand on renverse un pot, ce qui sort, c'est ce qu'il y avait dedans. C'est profond. Mais quand je suis renversé par l'épreuve, ce qui sort, c'est ce qu'il y a en moi. Je suis surpris parfois par les pensées qui peuvent me venir spontanément. Ça me fait peur. Ce qui sort, c'est ce qui est encore en moi. Ce qui n'a pas encore été purifié, ce que Dieu doit travailler. Mais ce que Dieu va transformer, c'est là qu'il va agir. Et lorsque je prends conscience de cela, ça me pousse à prier et à venir vers lui. Quatrième pensée, cette transformation qui se fait par étapes. Et Dieu n'a pas le même calendrier, pas toujours en tout cas que nous, en tout cas que moi. Parfois, je peux m'attacher à des péchés visibles, ça peut être un langage, tel ou tel comportement, et avoir l'impression que Dieu n'agit pas en moi. Ou pire, je peux avoir l'impression que Dieu n'agit pas dans telle ou telle personne. Ou pire, je commence à juger les autres. Le texte nous dit que Dieu renouvelle par son esprit chacun de ses enfants. Et parfois, il va agir sur des motivations, sur des choses non visibles, sur ma colère intérieure, pour m'encourager aussi à vivre, non pas par devoir, mais par reconnaissance et amour. Il n'y a pas de différence extérieure, hein, mais devant Dieu, la différence est énorme. Je peux venir au culte par devoir ou par amour. Je peux m'engager dans l'église par devoir religieux, par volonté de me mettre en avant, par désir d'obtenir quelque chose de Dieu, ou être reconnaissant et être d'accord de servir. Vivre dans la liberté. Extérieurement, il n'y aura pas de différence, mais intérieurement, le changement est radical. Enfin, cinquième élément, quand on parle de ces progrès chrétiens, le texte ne le mentionne pas ici, mais on doit parler aussi de la part de l'être humain, qui est réelle. Le Saint-Esprit nous donne tout ce qu'il nous faut, et nous avons des efforts à faire pour saisir ce qu'il nous donne, pour nous laisser transformer et purifier. Des efforts pour rejeter le péché qui attriste le Saint-Esprit, Hébreux 12, Éphésiens 4. Des efforts pour nous laisser purifier par la Bible. Lecture, étude, enseignement dans le cadre de l'Église. Sanctifier par la vérité. Ta parole est la vérité, Jean 17, 17, par exemple. 1 Pierre, 1 Jacques, 1 Éphésiens 4, on parle aussi. Des efforts pour vivre la vie d'Église, qui est source de progrès, Hébreux 10, 1 Thessaloniciens 5, dans le cadre de l'enseignement, la prière, la scène, la communion fraternelle. Un encouragement pour nous. J'avais lu au début, voilà ce que Paul dit des Crétois. Les Crétois ont toujours été menteurs, ce sont des bêtes méchantes, des gloutons et des feignants. Voilà un jugement qui est bien vrai. Mais ces personnes-là, lorsqu'elles se tournent vers Dieu, reçoivent le Saint-Esprit et peuvent vivre une vie transformée, tout à la gloire de Dieu. Le processus n'est pas immédiat. C'est pour ça que Tite a du travail, qu'il doit réorganiser l'Église, qu'il doit enseigner. Mais même pour les Crétois qui étaient tellement touchés par le mal et qui vivaient dans une culture totalement pervertie, bien même pour eux, il y a cette certitude que Dieu va agir et les transformer. Quel est le but du salut? Verset 7. Il l'a fait pour que, déclarés juste par sa grâce, nous devenions héritiers selon notre espérance de la vie éternelle. Nous sommes déclarés justes. Dieu nous voit sans péché à travers Christ. Nous lui avons donné nos fautes, il nous a donné sa justice et nous sommes héritiers. L'héritage nous appartient. On ne l'a pas encore reçu, mais on sait qu'on va le recevoir. Mais on n'a pas encore tout. C'est pour ça qu'on fait les joies d'une rentrée, du stress, d'un corps qui nous pousse encore au mal, que nous vieillissons, que nous tombons malades. Nous n'avons pas encore tout reçu. Mais l'héritage est en vue. Le Saint-Esprit nous est donné non pas pour améliorer vaguement quelques années de vie. Le projet de Dieu est tellement plus grand. La vie éternelle dans sa présence. Délivrée des effets et même délivrée de la présence du mal. Donc pour cette rentrée, nous avons d'autres objectifs. Déjà cette certitude que je vis dans la paix avec Dieu. Que je ne vais pas servir par contrainte. Que je ne vais pas vivre la vie de l'Église sous un poids, sous une pression. Et que je peux vivre toute ma vie dans la paix, la joie, la reconnaissance, la confiance. Si j'ai ce désir de témoigner de Dieu, je ne vais pas le faire de manière forcée. Et je peux prier, demander à Dieu de toujours plus me remplir de lui, que je sois toujours plus émerveillé par sa présence, pour que mes paroles débordent simplement de mon cœur. Plus je réalise ce que Dieu a fait pour moi, plus j'aurai envie d'en parler, et plus j'ai envie d'en parler autour de moi. Il paraît qu'il y a 4 semaines, il y a eu un match de football remporté par un pays voisin. Certains ont dit, ça y est, on est reparti pour 20 ans avec ça. Ah, vous avez encore plus entendu de ça que le match de foot, j'ai l'impression. Alors, je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais si on pouvait parler encore plus d'une victoire remportée, non pas il y a 20 ans, mais 2000 ans, par Christ. Je me suis réjoui de cette victoire, quand même. Mais il y a tellement mieux dans une victoire remportée. il y a 2000 ans. Tellement plus de joie, tellement plus d'impact. Alors, de cela, on peut en parler. Et imaginez que la joie que vous aurez peut-être si l'équipe suisse remporte dans 2 ans, hein, c'est quoi, c'est l'Euro, un championnat d'Europe, on a encore plus de joie à avoir et plus de joie à parler de la victoire de Christ. Parce qu'elle a vraiment ouvert le ciel. Tout est transformé. C'est le pont, l'histoire complète pivote. Alors allons-y. Et allons-y pour plus que 20 ans, hein, si Dieu nous prête vie. Il y a vraiment de quoi annoncer. Rappelle à tous qu'ils ont à se soumettre aux gouvernants et aux autorités, qu'ils doivent leur obéir et être prêts à accomplir toute œuvre bonne, qu'ils ne dénigrent personne, mais qu'ils soient au contraire conciliants, courtois, qu'ils fassent preuve d'amabilité envers tous les hommes. Et puis, verset 8, c'est là une parole certaine, je veux que tu insistes fortement sur ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à accomplir des œuvres bonnes. Voilà qui est bon et utile aux hommes. Pourquoi ces rappels concernant le salut ? Que Dieu soit honoré, parce que tout vient de lui, et nous avons besoin d'avoir ces rappels. Pour montrer que tout orgueil est déplacé, pour nous pousser à viser l'excellence dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous vivons, pour une vie qui soit transformée, libérée de l'esclavage du péché, une vie qui recherche les belles et les bonnes œuvres. Je ne vais pas tout développer ces éléments aujourd'hui, hein, on va en parler la semaine prochaine. Mais il faut que nous soyons conscients de cette vérité. Le salut est important à comprendre. L'œuvre de Christ, on la rappelle, et c'est nécessaire de le faire. Mais elle doit déboucher sur une vie qui est transformée. La pratique de ce que Paul appelle les belles ou les bonnes œuvres, selon vos traductions. Dieu nous transforme, et c'est lui qui nous donne les forces pour toujours rechercher l'excellence dans nos motivations, dans nos actions, pour que là où nous soyons, et là où nous serons demain, que ce soit encore en vacances, que ce soit dans une reprise de travail, que ce soit à la maison, eh bien nous ayons à cœur de pratiquer ces bonnes œuvres, dans l'amour de chacun, en reconnaissant l'importance, la beauté de chacun, et en nous basant sur ce que Dieu nous demande. Alors, on va encore plus pousser la question lors de la dernière prédication sur Tite, la semaine prochaine. En attendant, je conclue. Par son esprit, Dieu transforme notre vie et nous fait passer de l'esclavage à la gloire. Par son esprit, Dieu transforme notre vie et nous fait passer de l'esclavage à la gloire. L'avantage d'être chrétien n'est pas d'être meilleur que les autres, mais de recevoir l'Esprit de Dieu pour une vie transformée. Pas de supériorité, mais des changements. Reconnaissance. La reconnaissance, même en période de rentrée et de reprise, être reconnaissant. Merci Dieu parce que ma vie n'est pas dans mon travail. Ma valeur ne dépend pas de mes activités, de mes performances à l'école, au travail ou en famille. Également une saine motivation pour une vie transformée. Parce que Dieu m'a donné tout ce qui est nécessaire à la vie. Il me donne force et cette motivation pour des actions qui lui plaisent toujours plus. Et puis Dieu me donne aussi d'être porteur de sa lumière dans ce monde. Là aussi, la reprise d'activité, la reprise d'autres relations, des relations que nous avons habituellement, eh bien, c'est déjà l'occasion, dans un monde qui est touché par le mal, de rayonner de l'amour de Dieu autour de nous. Question, proposition que je peux faire. Que suis-je prêt à changer dans ma vie ? Quelle pratique personnelle ou familiale ou en église, est-ce qu'il y aurait à changer avec l'aide de Dieu ? Est-ce que je peux un jour par semaine dire voilà, ben je prends un peu plus de temps que d'habitude à lire ma Bible ou à lire un livre chrétien, il y a des bons, une librairie chrétienne en a ce privilège. Je prends un peu plus de temps. Alors évidemment, si je prends plus de temps d'un côté, il faut que j'en enlève de l'autre. Réfléchir à ce que j'enlève. Est-ce que je suis prêt aussi pour cette nouvelle année scolaire à donner une certaine priorité à la rencontre de prière, au culte ? Est-ce que je désire réfléchir comment je peux mieux apporter ma foi, me former ? On peut tout à fait en discuter aussi après le culte, en discuter cette semaine, n'hésitez pas. Mon désir, c'est que Dieu bénisse cette reprise d'activité et que nous puissions nous souvenir que par son esprit, Dieu transforme notre vie. Il nous fait passer de l'esclavage à la gloire. À nous de saisir cette vie. Je propose quelques instants de silence et je termine par la prière. merci, notre Père, pour cette vie que tu nous donnes et ton esprit présent à chacun de tes enfants. Merci parce que nous pouvons nous confier pleinement en toi, nous appuyer sur toi. Je te prie d'agir encore en nous, de continuer cette transformation, ce renouvellement de vie par ton esprit. Montre-nous aussi à chacun notre part à la prochaine étape, pour que ton esprit continue d'agir en nous et nous transforme.